Bonjour et bienvenue à La Condition Publique. C'est un très beau nom pour parler de politique ici à Roubaix dans le Nord. Jusque dans les années 70, dans ce lieu on entreposait, on conditionnait du textile. Aujourd'hui c'est un point de rencontre entre des populations d'origine très différentes. À Roubaix, dimanche, les électeurs se sont abstenus à 41%. On a voté pour Jean-Luc Mélenchon à 52%. Quelle sera l'attitude de ces Français le 24 avril? C'est notre fil rouge de cette nouvelle émission délocalisée jusqu'à 14h. Voici Crimo. Il vend des fruits et légumes sur le marché de Roubaix. Mélenchon au premier tour et ensuite...
Ouais, je vais aller voter Macron. Parce que je suis né ici. Je suis né sur le sol français, mais mes parents, voilà, je suis d'origine algérienne. Tout ce qui est Le Pen, elle est vraiment contre l'immigration, contre les origines. Tous ces politiciens, c'est des vendeurs de rêves. Mais quand même, demain, à décider entre Macron et Le Pen, le choix est vite fait.
Voilà pour ce premier témoignage, les enjeux de l'entre-deux-tours à Roubaix jusqu'à 14h pour cette émission spéciale et à Paris, évidemment, les grands titres de l'actualité. C'est avec vous Jérôme Cadet.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Un 13h évidemment branché sur la campagne présidentielle avant le second tour. Emmanuel Macron est au Havre aux côtés d'Edouard Philippe. C'est la photo de cette mi-journée et nous verrons que les lieutenants du président candidat ont parfois du mal à s'y retrouver dans son programme. Un programme qui bouge. Marine Le Pen, elle prépare son premier meeting d'entre-deux-tours à Avignon ce soir. Un entre-deux-tours dans lequel elle semble moins à l'aise. Nous serons à Moscou également dans ce journal. L'un des bâtiments phares de la flotte russe en mer Noire est en feu. Nous nous arrêterons sur la question des viols de guerre en Ukraine après le terrible témoignage d'Ekaterina que vous avez entendu ce matin sur France Inter. Nous appellerons Maureen Mercier qui l'a rencontrée. Et puis Cannes, une partie de la sélection du festival 2022 dévoilée ce matin. David Cronenberg, les frères Dardenne, Claire Denis et Michel Hazanavicius pour le film d'ouverture. Nous serons avec Corinne Pellissi.
Et juste avant 14h, quel rôle un lieu de culture comme celui où nous sommes peut jouer pour jeter des ponts entre les différentes îles de l'archipel français? Ce sera notre question. Le 13-14 à Roubaix, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et nous commençons cette émission sur le toit de la Condition Publique. Plusieurs immenses hangars côte à côte, faits de ces briques rouges emblématiques du nord de la France. Voilà le bâtiment. C'est un lieu de théâtre pour les enfants notamment, d'art contemporain. Il y a des ateliers que chacun peut utiliser gratuitement pour des projets ou petites réparations. Bref, un lieu de rencontre dans un quartier particulier, celui du Pile à Roubaix. Ici, dimanche dernier, on a voté à 66%. Mélenchon, on s'est abstenu à 47%. Et du toit de la Condition Publique, eh bien, on le voit, ce quartier, il reste quelques cheminées d'usines qui rappellent l'époque où l'industrie faisait vivre Roubaix, des bâtiments abandonnés. On a aussi, juste devant nous, le dôme de la mosquée Abou Bakr, ouvertement salafiste. Il y a encore ces anciennes rues ouvrières où le rouge domine. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Comment vont se comporter les habitants de ces quartiers dans 10 jours, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en particulier? Vous les avez interrogés, Béatrice, à Roubaix hier.
Emmanuel Macron ne vit pas dans le même monde que nous, dit Chahina, qui a voté donc Mélenchon au premier tour, 19 ans, en service civique à l'association Damas. Elle a vu ses parents non vaccinés pénalisés dans leur travail. Elle est certaine d'aller voter au deuxième tour, plutôt blanc, mais elle va quand même s'intéresser à Marine Le Pen.
Bah, regarder des vidéos d'elle qui parle aux gens, voir comment elle parle aux gens. Parce que j'ai vu des vidéos de Macron mal parler aux gens, mais j'ai pas vu des vidéos d'elle mal parler aux gens ou dénigrer certaines personnes.
Donc, par exemple, là, vous pouvez voir, c'est une photo de moi avec un ami militant.
Et
là,
Hamza milite à la France Insoumise depuis 5 ans, étudiant en musique. Il est à l'heure du choix pour le 24 avril.
Oui, c'est déjà fait. Hein. J'ai décidé de m'abstenir.
Et il place les deux candidats restants sur le même plan.
Je vois pas faire un vote utile, un vote de barrière. Je l'avais fait en 2017. Là, je n'ai pas envie. On dit souvent en politique c'est la peste ou le choléra, mais là c'est réellement le cas. Emmanuel Macron ne me parle pas, il est toujours un peu narcissique, Jupiter un peu, vous savez, je suis le chef. Marine Le Pen, ce que j'aime pas, c'est sa manière de stigmatiser les Français et de les désunir, alors que le rôle d'un président, c'est de réunir tous les Français finalement.
Yanis, lui, n'a pas encore tout à fait choisi, plutôt Macron pour cet entrepreneur social de 25 ans, histoire de faire barrage, parce qu'il craint aussi l'abstention des jeunes qui ont voté Mélenchon.
Pour beaucoup, en fait, ils se disent que ça sert à rien, en fait, parce que même quand ils se mobilisent, ça change rien. Il y a toujours le même second tour et ça peut, je pense, décourager pour le second tour. Et ça revient souvent chez les jeunes, on n'est pas de jeu, on veut des actes. Et c'est aussi pour ça que Macron a du mal, parce qu'il a eu 5 ans pour agir.
La participation à 60% pour ce premier tour de présidentielle est considérée comme correcte à Roubaix, en comparaison des 10% seulement des régionales de l'année dernière.
les abstentionnistes, les électeurs de gauche, quel sera leur comportement le 24 avril. C'est notre fil rouge jusqu'à 14h ici à Roubaix. Jérôme, j'ai face à moi, là, depuis le toit de la Condition publique, une installation d'art contemporain, une sculpture. C'est un personnage qui, dans un bâtiment en face, a un pied sur le toit, un autre pied dans le vide. C'est peut-être une image de cette France qui hésite avant le 24 avril.
En équilibre, en tous les cas, illustration de votre propos, Bruno, sur les électeurs de la France insoumise. C'est dans une ville où, comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, qu'Emmanuel Macron choisit de se rendre aujourd'hui. Déplacement au Havre sur le thème de l'écologie. La Normandie, donc, après le Nord lundi et l'Alsace mardi. Le Havre, ville dirigée par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous suivez ce déplacement du président candidat. Les deux hommes s'affichent côte à côte.
Oui, à voir leur sourire au contact des quelques dizaines de Havrais rassemblés derrière les barrières ici, on aurait pu croire que leurs relations sont aussi radieuses que le soleil normand. En réalité, Emmanuel Macron se méfie des ambitions d'Édouard Philippe, mais il prend soin de bichonner ses alliés. Surtout, il a un message pour ses opposants, vous l'avez dit Jérôme, en particulier les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il vient leur dire, entre Marine Le Pen et moi, choisissez le plus vert des deux. Il en veut pour preuve leur projet opposé sur les éoliennes.
Je vous confirme parce que nous on les produit. On les démonte pas. Ça crée des emplois et ça évite de dépenser de l'argent public bêtement.
Merci Président.
Bonjour. Voilà pourquoi il va visiter cet après-midi une usine d'éoliennes offshore. Malgré les critiques des associations environnementales, le candidat Macron défend son écologie, comme il dit, réaliste.
Alors on l'entend, ces déplacements sont l'occasion pour Emmanuel Macron de confronter son programme aux électeurs. Lundi, il a ainsi décidé de bouger sur son projet de report de l'âge légal de départ à la retraite. Ce pourrait être 64 et non plus 65 ans. Mais avec combien d'années de cotisation pour une retraite à taux plein? En débat hier soir avec Jordan Bardella du Rassemblement National sur BFM, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a eu du mal à préciser.
65 ans, parce que vous ne le dites jamais, avec combien d'annuités?
Mais attendez, juste...
Non. Monsieur le ministre, répondez-moi.
Aujourd'hui, il y a une 40,
Monsieur Macron, 40 qui va poursuivre le saccage social...
C'est
65 ans avec combien d'annuités?
40 annuités, voilà. Comme aujourd'hui...
65 ans avec 40 annuités?
Mais parce que vous rentrez plus tard dans le marché du
65
travail.
65 ans avec 40 annuités?
Et vous rentrez dans le marché du travail.
Alors, il va falloir vous mettre d'accord, puisque moi, j'ai débattu il y a une semaine avec le porte-parole du gouvernement, Mandela. Monsieur Attal, qui m'a parlé de 43 annuités.
Non, mais c'est...
Donc, il va falloir dire la vérité aux Français. 65 ans avec combien d'annuités, monsieur Darmanin?
Vous rentrez plus tard sur le marché du travail. Mais oui, 40 ans.
Alors, 40 ans, ce qui serait moins qu'actuellement, ou une quarantaine d'années de cotisation, dit Gérald Darmanin, sans plus de précision. Ce qui interroge sur la méthode d'Emmanuel Macron. Simon Le Baron, je me tourne vers vous à nouveau. Peut-on dire que, à l'image du ministre, hier soir, les soutiens d'Emmanuel Macron ont parfois du mal à suivre?
Ah, on peut le dire, oui, je vous le confirme. Il n'y avait qu'à voir, par exemple, lundi dernier dans le Nord, les visages un peu perdus dans son équipe de campagne quand il a annoncé qu'il était prêt à faire cette concession sur les retraites. En Macronie, on ne parle pas d'improvisation, on parle de souplesse, d'agilité. En fait, cette façon de mettre le moins de monde possible dans la confidence est très réfléchie. Elle a pour effet de donner l'image d'un candidat à l'écoute, qui a reçu le message des électeurs du premier tour et qui est prêt à le prendre en compte, comme par exemple sur les retraites, mais aussi sur le sujet du jour, l'écologie. Certes, Emmanuel Macron est prêt à reprendre quelques bonnes idées, mais il n'a pas l'intention en fait de modifier en profondeur son programme. Regardez les sondages, il n'en a pas besoin pour gagner, nous disait hier, très confiant, l'un de ses plus proches amis.
Simon Le Baron, en direct du Havre avec les moyens techniques de Romain Lucquiens. Le débat de l'entre-deux-tours lui aura lieu mercredi 20 avril, mercredi prochain à 21h. Il sera animé par les journalistes Léa Salamé pour France 2 et Gilles Boulot pour TF1. Les deux chaînes l'ont annoncé ce matin, je dis animé, mais le plus souvent le rôle des journalistes est très limité dans ce type de débat. Un exercice dans lequel Marine Le Pen avait peiné il y a 5 ans, dominé par Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement National va donc soigneusement préparer son duel en se dégageant du temps. Mais pour l'instant, l'heure est au terrain avec un premier meeting d'entre-deux-tours ce soir à Avignon, dans le Vaucluse, département où elle est arrivée en tête dimanche avec plus de 29% des voix. Mais Marine Le Pen, en dynamique avant le premier tour, semble avoir du mal à enchaîner. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Depuis lundi, les couacs se succèdent et les reports de voix issus des candidats battus s'annoncent moins bons que prévu.
Oui, d'abord parce que Marine Le Pen a déjà exclu de son éventuel futur gouvernement Éric Zemmour et Marion Maréchal. Les électeurs de Reconquête n'étaient déjà pas emballés, elle leur a ainsi fermé la porte. Et pour ce qui est des fidèles de Jean-Luc Mélenchon, sa vision de la laïcité, l'interdiction du port du voile dans l'espace public réaffirmée cette semaine paraît rédhibitoire. Alors qu'avant le premier tour, l'égalité stricte du temps de parole lui rendait service, elle est maintenant sous les projecteurs matin, midi, soir. Son programme décortiqué, ses lieutenants sur les plateaux et ça la dessert également. Louis Alliot s'est emmêlé les pinceaux sur la réforme des retraites qu'elle propose. Ce matin, sur Inter, Franck Alizio a eu du mal à défendre sa politique étrangère. Ce n'est sans doute pas un hasard. Jean-Marie Le Pen refuse toute demande d'interview avant le second tour, mais elle précise qu'il sera à l'Élysée le jour de son éventuelle investiture. Un détail, s'amuse un député En Marche. La Macronie a aussi bien aimé ses deux dernières conférences de presse, celle où elle assume mardi de trier les journalistes, celle où elle prône hier, toujours dans l'avenir, une alliance avec la Russie et où une opposante est traînée au sol par son service d'ordre. Ce ne sont que des anecdotes, balait-on au RN. Le débat peut tout changer. En 2017, ce fut l'inverse. La bonne première semaine de Marine Le Pen avait été vite oubliée le soir du débat.
Explication signée Maxence Lambrec. En 2002, on s'en souvient, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle avait entraîné de nombreuses manifestations, souvent emmenées par des étudiants. 20 ans après, des centaines d'étudiants se mobilisent mais contre les deux finalistes à Paris et Nancy, des bâtiments universitaires sont bloqués depuis hier. Ces étudiants souhaitent que les sujets de l'écologie et de la justice sociale soient davantage traités dans la campagne. La question sociale, plus précisément celle de la politique de la ville, c'est l'objet du comparatif de ce 13h, Bruno.
Oui, chaque jour, comparaison des programmes des deux candidats sur un point précis dans ce journal. Aujourd'hui, les quartiers populaires, en rappelant qu'en tout, en France, 6 millions de personnes vivent dans les quartiers dits populaires ou politiques de la ville. À Roubaix, nous sommes dans le quartier du Pile, qui a vraiment souffert des fermetures d'usines, le textile en particulier, dans les années 70. Dans cette ville, les trois quarts du territoire sont classés zones urbaines sensibles. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour Bruno.
Quelles sont les propositions des deux candidats pour ces quartiers? On voit ça avec vous, Claire.
Oui, et pour ce qui est de la philosophie, d'abord, d'un côté, chez Marine Le Pen, le terme même de politique de la ville disparaît. On parle de démétropolisation, de déconcentration au profit de la ruralité ou des villes moyennes plutôt que des banlieues. De l'autre, avec Emmanuel Macron, c'est la continuité, dit-on. La solution, c'est de prendre le problème des inégalités à la racine avec un programme intitulé Quartier 2030. Dans le détail, Marine Le Pen, si elle est élue, modifie la loi SRU sur les quotas de logements sociaux par commune pour placer l'équilibre à atteindre désormais au niveau régional. Logements sociaux et étudiants seraient soumis après référendum à la priorité nationale. Emmanuel Macron veut lui poursuivre sa politique de construction de logements HLM sans donner de chiffres, créer un système de caution publique pour favoriser l'accès au logement et pour lutter contre les discriminations à l'embauche, soumettre à des testings de manière systématique les entreprises de plus de 5000 salariés. Voilà, à noter que le RN promet aussi d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire notamment, renforcer la vidéosurveillance dans les établissements éducation prioritaire. Quand Emmanuel Macron dit vouloir aller plus loin sur le chantier de l'école en mettant plus de moyens sur les classes de transition, petite section, sixième, seconde, et créer un guichet unique pour les jeunes entrepreneurs, notamment des quartiers prioritaires.
Merci Claire Chaudière. L'entre-deux-tours vue de Roubaix, c'est dans quelques minutes ici à la Condition publique. Pour l'instant, la suite de votre journal à Paris, Jérôme Cadet, l'Ukraine à 13h13.
Oui, avec un revers majeur ces dernières heures pour la flotte russe qui contrôle la mer Noire, son navire amiral, le croiseur Moskva, est en feu. Alors a-t-il été touché par des missiles ukrainiens ou victime d'une explosion de munitions à bord? Pas de certitude à cette heure. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Sylvain, l'armée russe se contente d'indiquer que son navire est fortement endommagé et qu'il n'a pas coulé.
Non, effectivement, le Moskva serait toujours flottant. C'est ce qu'affirme le ministère de la Défense russe. L'incendie qui s'est déclenché à bord serait contenu. Il n'y aurait plus de risque d'explosion des munitions, ce qui avait provoqué ce matin l'évacuation complète du croiseur, ce qui n'est jamais bon signe dans la marine. L'équipage aurait été transféré vers d'autres navires russes présents dans la zone, mais on ne sait pas s'il y a eu des victimes. Et la marine affirme maintenant qu'une opération de remorquage va avoir lieu maintenant, peut-être vers le port d'attache du bateau. C'est Sébastopol, mais n'explique toujours pas les raisons de cet incendie. Côté ukrainien, certaines sources disent qu'il a été frappé par 2 missiles, mais là aussi, les informations restent encore assez floues. Toujours est-il que le Moskva est une pièce maîtresse de l'arsenal russe. C'est un croiseur d'époque soviétique qui avait été profondément remanié au début des années 2000. C'est un navire de 186 mètres de long, 500 hommes d'équipage. S'il a vraiment été frappé, comme l'affirment certaines sources ukrainiennes, par des missiles Neptune de conception ukrainienne, ce serait un véritable revers pour l'armée russe qui était censée avoir assis sa supériorité aérienne et maritime dans ce conflit.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, sur les bords cette fois de la mer d'Azov, le port de Mariupol. Lui n'est toujours pas contrôlé par l'armée russe, selon le maire de la ville. Après plus d'un mois et demi de siège, ce matin, Kiev a annoncé la reprise des évacuations de civils de cette ville. Des civils qui, on le sait, sont en première ligne depuis le début de l'invasion russe. Ils sont assiégés, bombardés, voire violés. Pour les femmes, des centaines de cas de viol, a dénoncé mardi le président ukrainien. À ce sujet, vous avez entendu ce matin sur Inter l'insoutenable témoignage d'une femme que nous avons appelée Ekaterina. Elle a 38 ans et pour protéger sa fille de 13 ans, elle a subi pendant des jours les viols de soldats russes. Cela s'est passé dans la ville occupée de Boutcha, ville qui il y a un peu plus de 10 jours a été évacuée par l'armée de Vladimir Poutine. Cette femme, c'est vous qui l'avez rencontrée, Maureen Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Ukraine, Maureen. Très rares sont les victimes qui trouvent la force de raconter. Dites-nous dans quelles conditions vous avez pu recueillir ce témoignage.
J'y suis parvenue en prenant le temps. J'ai passé plusieurs jours à Boutcha, notamment dans un même quartier périphérique. J'ai longuement discuté avec les femmes que je rencontrais. Plusieurs m'ont dit avoir été violées, mais elles ne parvenaient pas à trouver le courage de témoigner. Et puis, cette femme de 38 ans, je la rencontre d'abord ce premier jour où la ville a enfin été libérée, lorsque les corps des civils tués, ses voisins, jonchaient encore les rues de son quartier. C'est à ce moment-là que je la rencontre pour la première fois. À ce moment-là, elle ne me dit rien de ce qu'elle vient de subir. Et puis, petit à petit, la confiance s'est installée jour après jour. Et d'un coup, elle s'est décidée, elle m'a dit « Ça n'est pas à moi d'avoir honte, je vous raconte tout, une fois pour toutes, il faut que le monde entier sache. » 3 heures d'entretien avec sa fille de 13 ans à ses côtés qui a tenu, elle aussi, à s'exprimer. Elles m'ont raconté ces violences inouïes et le profil de ces militaires russes. Ces femmes sont peut-être malheureusement parmi les personnes qui, à Boutcha, peuvent le mieux dresser le portrait de ces soldats.
Je crois, mais je ne suis pas sûr que nous ayons survécu. Voilà ce que dit notamment Ekaterina ce matin dans son témoignage. Qui en dit long sur son état psychologique? Est-ce que ces femmes, Maureen, sont aujourd'hui d'une manière ou d'une autre prises en charge?
Trop peu encore. De nombreuses femmes ont été violées, dont des mineurs, mais voilà, très peu qui parviennent à parler pour leur. J'ai pu m'entretenir avec une psychologue qui a monté une cellule de crise pour aider les victimes de viols. Elle m'a évoqué notamment 2 cas. Une jeune fille, 14 ans, violée par 5 militaires russes, violée juste devant sa maison. Cette jeune fille est enceinte aujourd'hui. Et puis, ce petit garçon, 11 ans, violé sous les yeux de sa mère, que les militaires avaient ligoté à une chaise. Ces victimes, elles ne porteront pas plainte. La psychologue tente en vain de les convaincre. Cette psychologue m'a évoqué ces victimes qui ne pensent surtout pas à porter plainte. Elles pensent au suicide désormais.
Merci à vous, Maureen Mercier, envoyée spéciale pour la RTS, la radio et télévision suisse, donc liaison établie depuis l'Ukraine par Laurent Macchietti. Votre reportage Grand Angle est à retrouver sur franceinter.fr, ainsi qu'un éclairage sur la notion de génocide. Assiste-t-on en ce moment en Ukraine à un génocide ?
France Inter, 13h18, Jérôme Cadet, la guerre en Ukraine, il en sera aussi question au Festival de Cannes.
Oui, il y a un peu plus d'un mois du festival, ce sera le 17 mai. La sélection officielle a été dévoilée ce matin. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Des annonces donc, mais encore pas mal de questions. Tout n'a pas été annoncé ce matin.
Exactement, toujours pas de président, pas d'affiche, pas de jury. Une sélection qui sera affinée dans les prochains jours, mais de quoi déjà nous donner un avant-goût de ce que sera cette édition anniversaire. Très ouverte sur le monde et l'actualité, le climat, la guerre aussi aux frontières de l'Europe, à travers la venue de réalisateurs ukrainiens, la présence en compétition pour la 3e fois du réalisateur Kirill Serebrennikov, qui a pu quitter la Russie et présentera son nouveau film aux côtés d'habitués du festival comme David Cronenberg, James Gray, le sud-coréen Park Chan-wook. La sélection sélection n'est pas complète, mais on sait déjà que 4 anciens palmés seront présents. Hirokazu Kore-eda, les frères Dardenne, Christian Mounjou, Robin Östlund. Côté français, vous les avez cités, Claire Denis, Valeria Bruni-Tedeschi et Arnaud Desplechin sont en lice pour une palme d'or. Hors compétition, Michel Hazanavicius fera l'ouverture avec son nouveau film Z comme Z, une comédie de zombies. On va trembler sur la croisette. Nicolas Bedos, enfin, Cédric Jiménez et George Miller côtoieront en séance spéciale les très attendus Elvis de Baz Luhrmann et le Top Gun Maverick de Tom Cruise. On devrait avoir encore cette année de beaux moments de tapis rouge.
Des moments que l'on vivra avec vous, Corinne, avec toute l'équipe de France Inter pour ce 75e Festival de Cannes. Ce sera du 17 au 28 mai, avec très certainement un hommage à Michel Bouquet, l'acteur et comédien décédé hier à l'âge de 96 ans. En tout cas, un hommage national sera rendu à Michel Bouquet aux Invalides à Paris dans deux semaines, mercredi 27 avril, comme pour Jean-Paul Belmondo. Hommage qui sera présidé par Emmanuel Macron, quel que soit le résultat du second tour, Bruno, car le futur ou la future présidente n'aura pas encore été investie à cette date-là.
Merci Jérôme Cadet, c'était votre journal. On n'oublie pas qu'à Roubaix, vous qui êtes fan de sport, qu'est-ce qui se passe ce week-end ?
Ah, Paris-Roubaix, évidemment, hommes et femmes ce week-end.
Évidemment ce week-end, on l'oublie pas. Merci Jérôme, journée printanière ici à Roubaix. Qu'en est-il ailleurs ? On voit ça dans un instant.
À Pâques, Didier va encore s'embrouiller avec Nadine. Je te préviens, touche à mon œuf et c'est le divorce. Et Nadine lui répondra, mais il n'y a pas écrit ton nom dessus ? Eh bien si, justement. Chez Jeff de Bruges, faites inscrire gratuitement son prénom sur un délicieux œuf en chocolat. Jeff de Bruges, à partir de 12 euros l'œuf de Pâques personnalisé. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal ? Et le droit d'avoir un travail alors ? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
13h21 sur France Inter, le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
C'est une journée printanière, Elodie Calac.
Oui, de la douceur au programme, hein, 16 à 25 degrés. Alors 16 degrés du côté de Cherbourg, 21 degrés à Paris, à Tours, à Bastia, 23 à Lyon et à Montauban, on ira jusqu'à 25 à Nîmes ou à Marseille. Côté ciel, c'est du soleil, en particulier sur la région PACA et sur la Corse, là il brille très généreusement. Ailleurs, il alterne avec des passages nuageux, un peu plus nombreux quand même près de la Manche. C'est aussi le cas du Massif central jusqu'au nord-est, avec quelques averses orageuses possibles. Et puis demain, encore de la douceur. Les températures seront proches d'un début juin, avec beaucoup de soleil, quelques grisailles le matin, malgré tout près de la Manche en particulier, et sur le sud-ouest. Et puis quelques passages nuageux inoffensifs sur les régions du nord. Et pour le week-end, du soleil, Bruno.
Merci Elodie Calac. 13h22, message à la régie, j'ai quelques petites micro-coupures dans mon casque là en me promenant dans la condition publique, j'espère que tout le monde m'entend bien. L'entre-deux-tours, vue de la ville de Roubaix, c'est tout de suite.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Et nous sommes dans le quartier populaire du Pile à Roubaix, cette ville de 100 000 habitants parmi les plus pauvres de France. Autre caractéristique de Roubaix, près de la moitié des habitants ont moins de 30 ans. Parole de jeunes dans un instant. Le premier tour dimanche dernier, abstention 41%, c'était 84% au régional. Alors un premier témoignage au micro de Béatrice Duguay. À Seine, il est commerçant sur le marché de l'Alma, l'un des quartiers pauvres de la ville. Abstention pour lui au premier tour et au second, que va-t-il faire ?
Me tâte encore quant à voter. On a un peu du mal à se retrouver dans les politiques parce que quelque part, quelle que soit l'alternance gauche-droite, il n'y a pas eu trop de changements. Là, aujourd'hui, on a eu quelqu'un du centre et ça n'a pas tellement changé, surtout au niveau du pouvoir d'achat. On parle que de ça, mais dans le concret, il n'y a rien. On parle du recul des retraites, on parle beaucoup de l'augmentation de l'énergie, le salaire, il reste ce qu'il est, donc il y a une grosse inflation qui s'opère et on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Maintenant, je pense pas qu'il y a un candidat qui ait une baguette magique pour pouvoir proposer un salaire à 2000 euros. Donc, quelque part, on sait très bien qu'ils sont limités par les entrées et les sorties, quoi. Je chemine parce que, encore une fois, je répète, je suis apolitique. Je crois pas personnellement que c'est le président qui puisse changer l'économie d'un pays.
Mais en même temps,
un mauvais président peut tirer vers le bas. C'est ça aussi, on est entre deux feux.
Voilà pour ce témoignage. Et nous nous sommes glissés dans une des expositions qui se tient ici à la condition publique et qui s'appelle « Des futurs désirables ». Encore un beau nom pour parler de politique dans ce lieu de culture et d'échange. Il y a beaucoup de monde autour de moi pour assister à ce 13-14 et pour analyser le vote de dimanche. Trois invités, Maria Twimi Benjelloun, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, étudiante en master de droit international à Lille. Vous êtes née à Roubaix. Julien Talpin, bonjour.
Bonjour.
Chercheur en sciences politiques et à l'université de Lille. Et Camélia Sgaillard. Bonjour Camélia.
Bonjour.
Vous avez 21 ans, vous étudiez licence 3 communication à l'université Tourcoing et vous participez à ce média participatif justement qui s'appelle Labo 148 à la condition publique et qui est inclus dans cette exposition Futur désirable. Camélia, dimanche dernier, premier vote, ça fait quoi?
Bah, c'était assez impressionnant quand même et du coup j'ai senti un peu ce moment où je suis rentrée dans l'isoloir, on se dit on met juste un papier dans une enveloppe, mais au final je me suis quand même interrogée sur l'impact que ça allait avoir et je me suis sentie responsable au moment de voter.
Sentiment de responsabilité quand on entre dans l'isoloir.
C'est ça exactement.
Vous avez hésité à voter?
Non, j'ai pas vraiment hésité. J'aurais bien aimé peut-être voter blanc. Je me suis questionnée sur le vote blanc, mais sachant que c'était pas comptabilisé, je me suis dit qu'il fallait quand même voter. Et du coup, j'ai voté pour Mélenchon dimanche.
Parce que donc 21 ans, premier vote, ça veut dire que vous n'avez pas voté au régional. Pour quelle raison est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas voté?
Tout simplement parce que je pense que je venais d'avoir 18 ans et que du coup... la politique, je me sentais pas forcément concernée par la politique au final, à ce moment-là. Et puis je me suis renseignée, j'ai pris conscience que c'était quand même important de voter en tant que citoyen et voilà pouvoir avoir son mot à dire, entre guillemets, on avait cette chance-là de le faire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dimanche.
À l'époque, vous vous sentiez pas légitime pour voter?
C'est ça, oui, je me sentais pas légitime parce que vraiment, j'avais pas de connaissances claires et j'étais pas forcément informée vraiment sur ce que représentaient les élections régionales. Et du coup, voilà, c'était... Tout simplement pour ça que j'ai pas voté.
Maria, alors vous voulez pas dire pour qui vous avez voté, ce qui est votre droit le plus strict, mais petit 1, vous avez voté dimanche dernier.
Oui, j'ai voté dimanche dernier. Je vous avoue, j'ai hésité pour qui voter pendant très longtemps,
oui.
Parce que les candidats ne correspondaient pas forcément à mes valeurs.
Aucun, il y en avait 12 et aucun ne correspondait à vos valeurs. Ça s'entend, hein, mais ça m'étonne quand même.
Oui, j'ai bien lu tous les programmes, oui. Et dans chaque programme, je trouvais quelque chose qui me révoltait. Donc j'ai pris celui qui me paraissait être le moins
Qui vous révoltait le moins, c'est
voilà,
un terme fort, ça, révolter.
C'est ça.
Et vous avez lu tous les programmes,
oui.
Vous avez pris le temps de lire les 12 programmes.
Ah oui, j'ai pris le temps.
Vous êtes impliqué dans un collectif qui s'appelle Je pense donc je vote. À ce titre-là, vous allez au contact des gens. Qu'est-ce que vous retenez des contacts que vous avez eus tous ces derniers jours? Les gens qui votent pas, qu'est-ce que vous retenez de ces moments-là?
Alors... par rapport aux autres années, donc à l'élection présidentielle précédente de 2017,
ouais.
Les gens veulent moins voter parce que le président a montré ce dont il était capable, entre guillemets. Je dis pas ça en le stigmatisant ou...
Non, mais c'est un propos critique et voilà. On a le droit d'avoir des propos critiques.
mais oui, j'ai constaté que les personnes sur le terrain étaient moins motivées que les années précédentes à aller voter parce qu'ils étaient perdus aussi. Il y a des candidats qu'ils ne connaissaient pas avant.
Ouais.
Il y a des programmes qui ne sont pas bien exposés. Et du coup, oui. Il y avait une démotivation.
Julien Talpin, vous qui êtes chercheur en sciences politiques, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Roubaix a toutes les caractéristiques d'une ville abstentionniste. Beaucoup de quartiers populaires, beaucoup de populations jeunes. Et ce taux d'abstention, il monte au fil des années. Premier tour 2007, 28% et 41% dimanche dernier.
Oui, alors effectivement, Roubaix a souvent été caractérisé comme la capitale française de l'abstention. Là, on est à 15 points de plus
que au
niveau national. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue-là, même si on aurait pu penser, au regard de la faible intensité de la campagne, que l'abstention aurait été encore plus importante, en fait, à Roubaix. En général, quand les campagnes sont de faible intensité, là où on vote le moins, on vote encore moins qu'au niveau national. Et donc, il y a presque une petite surprise qu'on ait quand même voté à près de 60% à Roubaix à ces élections-là.
Surtout qu'on revient de loin, hein. Abstention 84% au régional.
Absolument, dans certains bureaux de vote au régional, seulement 5-6% des électeurs s'étaient déplacés. Dans les mêmes bureaux, c'est 10 fois plus en fait cette fois-ci, dans les bureaux du quartier de l'Alma par exemple, que vous évoquiez, c'est près de 50% des inscrits qui sont allés voter. Donc il y a quand même une forme de remobilisation, à la fois parce que les gens ont conscience que les présidentielles sont l'élection cardinale et qu'ont probablement le plus d'impact sur leur vie, et peut-être aussi parce qu'il y avait des offres politiques qui leur correspondaient davantage.
Maria, vous vouliez dire quelque chose
par rapport à ça? j'ai remarqué aussi que la jeunesse était beaucoup plus mobilisée que les autres années, que le vote Mélenchon à Roubaix était vraiment quelque chose qui avait porté la jeunesse dans une réelle mobilisation politique qu'elle n'avait pas eu avant. Et justement, oui, par rapport à ces propos-là, je suis tout à fait d'accord. Quand je disais que les gens votaient peut-être moins, enfin avaient moins envie de voter, c'était plus les personnes qui ont entre 30 et 40 ans. C'est pas la jeunesse, parce que la jeunesse, oui, elle a réellement plus d'intérêt qu'avant.
Même si au plan national, hein, la jeunesse s'est massivement abstenue. Ce qu'il faut relever, Julien Talpin, c'est jusque dans les années 70, Roubaix votait plutôt plus que la moyenne nationale.
Alors effectivement, c'est important à rappeler en fait que dans les quartiers et les communes populaires, en fait, on votait plus qu'ailleurs au niveau national, pour une raison quand même centrale, qui était qu'il existait à l'époque un maillage militant, politique, voilà, syndical, associatif, qui s'est pour partie désagrégé depuis en fait. Et donc, c'est pas naturellement la pauvreté ou les inégalités qui conduisent à l'abstention, c'est plutôt au fond quand celle-ci n'est plus travaillée politiquement par des corps intermédiaires qui sont capables d'une certaine façon de montrer que la façon de lutter contre les inégalités et la pauvreté, c'est de se mobiliser, c'est de participer. Ouais. Le Parti Socialiste l'a beaucoup fait à Roubaix pendant des décennies ici, s'est progressivement effondré et pas grand monde l'a remplacé. Et donc, un des éléments centraux, effectivement, c'est ce travail de maillage associatif politique qui est encore à reconstruire aujourd'hui.
La permanence du PS, c'était, je crois, 250 personnes il y a quelques années. C'est quasiment plus personne aujourd'hui.
Alors effectivement, depuis 2017, en fait, le PS s'est vraiment effondré. La section de la France Insoumise s'est un peu développée, mais il y a plus, moi qui suis les élections en fait sur Roubaix depuis plus d'une dizaine d'années, le travail militant qui était encore opéré à la fin des années 2000, début des années 2010, est plus du tout le même, parce qu'il y a plus de militants en fait. Hein, et ils sont ailleurs, dans les associations, etc. Il y a quand même d'autres formes de militantisme qu'on a vu par exemple au moment du Covid et qui ont pu jouer un rôle important de solidarité, mais quand même ce déclin des corps intermédiaires et de ces formes d'intermédiation partisane explique l'abstention massive qu'on observe à Roubaix depuis des années.
Alors Camélia, qu'est-ce qui incite à voter ou pas? Vous nous parliez du vote blanc tout à l'heure. On parle beaucoup depuis les Gilets jaunes et dans cette campagne encore des référendums d'initiative citoyenne. Ça par exemple, vous participeriez à un référendum quel que soit le sujet?
Ouais, je pense que vraiment c'est un bon moyen de donner la parole davantage aux gens qui vivent les choses réellement et qui pourront du coup apporter un autre regard sur des nouvelles lois ou sur des nouvelles choses à mettre en place. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que les citoyens pour savoir ce qui serait le mieux pour eux.
Julien Talpin, alors on a beaucoup parlé référendum, vote blanc, reconnaissance de l'abstention. Il y a un sujet que vous voulez mettre en avant, et il faut que vous nous expliquiez parce que c'est un peu compliqué. Obligation de participation délibérative avant une élection, ça veut dire quoi?
Ah, ça veut dire, bon, des fois on évoque effectivement la question du vote obligatoire, comme ça existe pas très loin d'ici en Belgique. Moi je suis un peu sceptique et les expériences quand même montrent que les résultats sont mitigés parce que ça produit du vote désinvesti, c'est-à-dire que les gens votent pour ne pas avoir d'amende, mais la signification de leur vote est pas géniale. Moi je crois qu'en fait ce qui est important, c'est pas uniquement que les gens votent, mais qu'ils ils décident de voter ou de ne pas voter en toute connaissance de cause, ce qui est pas toujours le cas au regard de la distance et de la critique avec les médias aujourd'hui. Par ailleurs, vous évoquiez à l'instant le référendum. Moi, je crois que c'est aussi en transformant le fonctionnement démocratique qu'on pourra redonner du souffle à la démocratie. Aujourd'hui, on a beaucoup fait d'expériences de démocratie participative depuis des années, et les gens n'y croient plus trop, en fait. Hein, et y compris, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat au cours de ce quinquennat, le sentiment que souvent ces expériences participatives, en fait, n'ont pas beaucoup d'impact, ne transforment pas la distribution du pouvoir, et donc peut-être aller vers des formes de référendum d'initiative citoyenne où véritablement les citoyens ont le dernier mot pourrait permettre de montrer que ça vaut la peine de participer, de toucher du doigt les résultats de sa participation et de son engagement, et y compris à l'échelle locale sur des enjeux qui comptent pour les gens. Par exemple, les projets de rénovation urbaine où on transforme complètement un quartier. Roubaix a été beaucoup touché par ce type de politique urbaine, ouais, sans que les habitants aient quasiment leur mot à dire. Là, typiquement, des formes de démocratie directe à l'échelle locale pourraient entraîner une remobilisation de gens qui souvent sont un peu désenchantés.
En organisant des débats avant le scrutin, c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie. Ce qui se passe avant une élection est aussi important que ce qui se passe le jour d'une élection.
Alors, effectivement, c'est-à-dire et tout particulièrement pour la démocratie directe, mais c'est aussi vrai pour les élections présidentielles, par exemple, c'est que la qualité d'une démocratie, c'est pas uniquement le vote, le choix qu'on fait, c'est la qualité des informations qu'on a au moment de glisser son bulletin dans l'urne. Et donc, effectivement, créer les conditions pour que chacun puisse faire son choix en conscience, à l'heure où on parle beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, organiser, par exemple, avant les grands scrutins ou avant un référendum sur un projet de rénovation urbaine, des grands débats dans les quartiers, moi, je pense que ça pourrait remobiliser et permettre aux gens de prendre leur choix comme il faut.
Alors, quelle attitude les abstentionnistes, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon auront-ils au second tour? Je pose la question à nos deux invités dans un instant. Un témoignage d'abord. On a passé ce matin, depuis Roubaix, un coup de fil à Sherazade Bentorki. C'est la chef de file pour la campagne LFI à Roubaix et probable candidate aux législatives. Quel message à l'issue du premier tour et pour le second?
Le message, il est clair. Je pense que les Roubaisiens, aujourd'hui, veulent du changement. Ils se sont sentis, durant ces 5 dernières années, méprisés. Un peu même exclus, en fait, du débat actuel.
Sur quel point concret?
Alors, par exemple, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Dans une ville comme Roubaix, qui est l'une des plus pauvres de France, comment les gens font pour pouvoir se loger, se nourrir, payer les factures et vivre dignement?
Pourtant, le débat, il était très présent avant le premier tour, y compris avec des mesures prises par le gouvernement. Par exemple, le blocage des prix électricité et gaz, le rabais sur le carburant.
Alors, avant que cette mesure arrive en application, les Roubaisiens ont dû payer le litre plus de 2 euros. En fait, dans le portefeuille direct, en fait, les Roubaisiens n'ont pas senti l'impact.
Et quelle sera votre attitude au second tour, Sherazade Bentorki?
Alors, là-dessus, c'est clair, pas une seule voix pour Marine Le Pen.
Et au-delà de ça, est-ce que ça peut vous amener à glisser un bulletin Macron dans l'urne?
Alors, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les consignes de vote ne marchent pas. Nous avons besoin de garanties donc de la part d'Emmanuel Macron sur les questions d'urgence. Aujourd'hui, par exemple, on va prendre sa réforme sur la retraite, 65 ans. Mais dans une ville comme Roubaix, où en fait on sait pertinemment qu'un quart en fait des plus pauvres meurent avant 62 ans. Mais qu'est-ce qu'on dit aux électeurs?
Et ici à la condition publique au sein de l'exposition Futur désirable, nous sommes toujours avec Maria Twini Benjeloun, Camélia Sgaillard et Julien Talpin. Camélia, qu'allez-vous faire dimanche en 8?
Alors donc pour le deuxième tour, je pense faire un vote plutôt contre Marine Le Pen et pas forcément pour Emmanuel Macron, mais du coup ouais, je vais voter Emmanuel Macron pour essayer. Ce sera plutôt un vote utile du coup pour le deuxième tour.
Pourquoi contre Marine Le Pen? Après tout, il y a des millions de Français qui votent pour elle. En quoi vous estimez nécessaire de lui faire barrage?
Je pense qu'elle a des choses dans son programme un peu trop extrémistes et aussi parce qu'elle a vraiment enfin des valeurs qui ne me correspondent pas et du coup c'est aussi beaucoup un choix personnel. Tout ce qui concerne sa politique migratoire, etc., ça c'est vraiment des points qui sont qui ne peuvent pas passer pour moi et donc c'est pour ça que je voterai pas pour Marine Le Pen.
Maria, deux questions. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous allez faire dimanche 24 avril?
Oui, je vais voter pareil, du ouais. coup contre Marine Le Pen, donc pour Emmanuel Macron. Et là, ça va être plus un vote de devoir qu'un vote de conscience, parce que je me sens obligée de le faire. Parce que si je ne le fais pas et que beaucoup de gens ne le font pas, parce que beaucoup ne comptent pas voter au second tour, je sais pas comment on va finir.
Beaucoup d'électeurs de Mélenchon font pareil. On entend pas mal depuis le début de la campagne, Marine Le Pen, elle a changé. Elle est moins raciste qu'avant. Elle est moins raciste qu'Éric Zemmour. Ça, vous l'entendez à Roubaix et dans le coin?
Ah oui, je l'entends souvent. J'entends qu'elle s'est adoucie avec le temps, que ses valeurs ont changé. Sauf que quand on lit son programme et quand on voit à quel point il est imprécis et la marge de manœuvre que ça pourra lui permettre plus tard dans le droit, on constate très facilement que ses valeurs n'ont pas changé.
Je voudrais terminer par dire un mot de cette exposition Futur désirable avec vous, Camélia, parce que vous êtes impliquée, c'est avec les FRAC, les fonds d'art régionaux contemporains, et puis ce média participatif Labo 148, sur la place des femmes dans la ville, pour le dire vite, la question du genre dans la ville. Julien Talpin a l'habitude de dire que c'est sur des projets concrets qu'on va se mobiliser. Le féminisme, typiquement, c'est un projet sur lequel voilà, on peut entrer en politique, pour le dire clairement.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment une volonté de plus en plus, notamment de la jeunesse aussi roubaisienne, d'agir en tant qu'individu en s'investissant dans des causes. Donc là, par exemple, le féminisme ou le Labo 148 en participant à un média participatif, c'est déjà un engagement citoyen. Et en fait, ouais, on a vraiment l'impression que c'est plus concret qu'un programme juste écrit où on sait vraiment pas ce qui va être fait, ce qui va pas être fait. Et voilà, donc c'est vraiment le pouvoir d'agir qui l'emporte un petit peu avec cette exposition et à Roubaix en général.
Alors vous y participez à cette exposition, il y a un texte là-bas un peu plus loin que vous avez écrit qui raconte une mauvaise expérience. Un soir en boîte de nuit, vous revenez malade, sans doute que quelqu'un a glissé de la drogue dans votre verre et votre maman et votre médecin vous dit en gros, faut pas sortir seul le soir. Et ça vous choque d'entendre cette phrase. Et au fond, j'ai l'impression que ce combat féministe, par exemple, dans cette histoire, il s'incarne dans le fait de dire « Mais zut, je peux sortir seul le soir, je prends mes risques et mes responsabilités ».
Ouais, tout à fait. En fait, on a un sentiment aussi de plus pouvoir être libre maintenant, même dans l'espace public. Et c'est un peu ce que j'ai voulu retranscrire un peu dans ce texte et vraiment montrer que, ouais, en fait, on a ce besoin de liberté, d'être nous-mêmes quand on veut, où on veut. Et voilà. Et c'est vraiment un point important et qui me tenait à cœur d'exposer dans cette exposition.
Allez, trois questions courtes, réponses courtes. Julien Talpin, pour mobiliser les électeurs, il faut du concret et de l'horizontal, c'est ça en résumé?
Et il faut du travail militant. Il faut des intermédiaires, et c'est vraiment en allant à la rencontre des gens que je pense la résignation face à des votes qui paraissent le plus souvent sans conséquence sur la vie quotidienne, oui, peuvent éventuellement être transformés. Puis après, des projets effectivement sur le féminisme, et je crois que la question du racisme, de l'antiracisme et de l'islamophobie sont aussi des choses qui concernent quand même fortement la jeunesse, qui expliquent les scores de Mélenchon dans les quartiers populaires, comme Roubaix, mais aussi en Seine-Saint-Denis ou dans les quartiers nord, qui explique que assez probablement Macron sera largement en tête à Roubaix et dans des villes similaires. Oui. Parce qu'une des raisons du vote Mélenchon a précisément été la puissance de l'extrême droite pendant cette campagne. Le fait que Roubaix, par exemple, était comparé à l'Afghanistan, pardon, et à Kaboul, oui, par un des candidats. Et donc, c'est aussi en réaction à un sentiment d'islamophobie très puissant, en fait, que les habitants des quartiers populaires se sont mobilisés. Juste un dernier mot. Il n'est pas certain, néanmoins, que Emmanuel Macron et son bilan au cours de ce quinquennat permettent de mobiliser les électeurs sur ce sujet.
Et parallèlement, puisqu'on parle de la place des femmes dans la ville, dans cette exposition, on n'oublie pas qu'il y a une mosquée salafiste où, voilà, ça n'est pas spécifiquement féministe dans ces coins-là. Futur désirable, Camélia, ce serait quoi? Futur désirable, pour reprendre le titre de l'exposition.
Ça serait un futur avec plus de justice sociale, plus une plus grande place à la parole des citoyens, et vraiment quelque chose où on est libre aussi, du coup, de parler, de s'exprimer, et voilà, un monde un peu plus évolué.
Merci à tous les trois de nous avoir rejoints ici à la Condition publique et d'avoir répondu à nos questions. Parole de représentants des deux finalistes dans un instant. Le temps de rejoindre d'abord Catherine Ausson, députée En Marche du Nord. Un nouveau témoignage recueilli par Béatrice Duguay, c'est celui de Suzy. Elle a 65 ans, ancienne femme de ménage, petite retraite, les mains déformées par son travail, m'a dit Béatrice. Cheveux blancs, courts, dame bien mise. Elle va voter Le Pen au second tour. Béatrice Duguay lui a posé cette question. Qu'est-ce qui guide votre choix?
Tout ce qui ne va pas.
Pouvoir d'achat, l'insécurité, le monde actuel. C'est qu'ils sont trop pour Internet depuis le Covid. Et ça, je ne suis pas d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui... moi, je n'ai pas Internet. Et ben, je peux vous assurer que c'est la croix et la galère pour faire des démarches pour tout. En plus de ça, tout ferme. Il y a beaucoup de petites succursales qu'on avait avant, que maintenant on est obligé d'aller à certains endroits. Il y a des rendez-vous, il y a ceci, il y a cela, on ne sait plus les avoir au téléphone. Ben voilà, c'est tout ça, les contraintes de la vie de maintenant.
Donc quand vous avez besoin d'appeler ce que je comprends, c'est une administration, voilà, par exemple?
Ben, ça devient une galère. Pour refaire les papiers, quoi. Garder mon mari a une carte d'invalidité. Bon, ben, quand il a fallu refaire la carte d'invalidité, il y a un monde papier comme ça. Vous attendez des lustres.
Puis je suppose que c'est embêtant de se retrouver dépendant de quelqu'un.
Oui, voilà, exactement. Surtout que moi, j'ai toujours tout fait moi-même. Bon, ben voilà. Voilà.
Donc en fait, c'est un vote de protestation?
Pas de protestation, mais de toute façon, il faut voter. Et comme le vote blanc n'est pas comptabilisé, ben, on vote quand même. On s'est trop battu pour avoir le vote, donc maintenant, il faut voter.
Bonjour Catherine Ausson.
Bonjour.
Députée En Marche de la 8e circonscription du Nord, qu'est-ce que vous répondez à cette dame qui, au fond, ressent un sentiment d'isolement, notamment lié au service public?
Tout à fait. J'ai bien entendu sa détresse, quelque, oui, part, de cette femme qui a travaillé toute sa vie, qui a un petit revenu, qui a sûrement une petite retraite, comme de nombreux nordistes et particulièrement roubaisiens. Tout d'abord, lui dire, et je fais écho à tout à l'heure quelqu'un qui disait on voit plus trop la différence entre la gauche et la droite, ben moi je vais lui dire que la différence de la gauche et la droite, à Roubaix on l'a vu parce que la droite, la RGPD, ça a été des services publics en moins. C'était un commissariat de police qui avait 700 policiers qui est passé à 400 policiers sous la droite. C'est des lits d'hôpitaux qui ont fermé à l'hôpital de Roubaix. Et donc la droite et la gauche, c'était pas pareil. Alors nous, on est arrivés entre deux, voilà, en se disant bon, on va prendre ce qu'il y a de bien à droite, ce qu'il y a de bien à gauche, on va essayer d'avancer ensemble.
Et vous êtes de ces macronistes qui viennent de la gauche, hein. On l'aura compris dans vos propos, mais je le précise.
Parce que je suis également territoire de progrès, qui est l'aile gauche de la Macronie. Ouais. Et donc on a remis du service public à Roubaix. les chiffres parlent, mais malheureusement, c'est du temps long. Remettre de la République, remettre des professeurs, remettre des soignants, remettre des policiers dans une ville qui a beaucoup souffert, c'est compliqué. Et en plus, il faut prendre tous les problèmes à bras-le-corps, parce que si la police n'était qu'un problème d'effectifs, c'est aussi un problème d'équipement, c'est aussi un problème de ressources humaines, c'est un problème de répartition.
Ça demande du temps, dites.
Ça demande du temps, on est dans le temps long.
Ce que je retiens de ce qu'on entend depuis le début de l'émission, c'est que cette image, pour le dire très vite, antisociale en quelque sorte d'Emmanuel Macron, lui colle à la peau, et je retiens notamment ce que nous disait la représentante LFI, parler de la retraite à 64 ou 65 ans quand il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de santé déplorable à 62 ans, c'est pas possible ici. Qu'est-ce que vous répondez ?
Bah, d'abord, je répondrai que moi, j'étais dans le Pas-de-Calais lundi, que j'ai bien entendu le président de la République, en tout cas qu'il a bien entendu les Français. Alors, certains interpréteront ça comme un changement. Moi, je trouve que c'est une certaine humilité de se dire, voilà, je vous ai entendu. Effectivement, la retraite à 65 ans, ça pose problème, ça inquiète. Je pense qu'aussi, on ne raconte pas toute l'histoire, parce que ici, on rentrait à la lainière comme ses parents, comme ses grands-parents, et c'est encore très ancré, je peux vous le dire.
À la lainière, oui, la laine, le textile.
La grande usine textile de Roubaix, et on a encore ces comportements-là. Moi, j'accompagne tous les jours, j'étais enseignante jusqu'à la veille de mon élection. J'enseignais 20 ans dans les quartiers. J'accompagne tous les jours des jeunes qui sont en recherche d'emploi, et on doit encore lutter contre ces comportements où on pense qu'on va rentrer dans une entreprise et on va rester toute sa vie. Et donc, quand on parle de la retraite à 65 ans, on s'identifie aux carrières de nos aînés. Sauf que les métiers de demain n'existent peut-être pas encore, et que les carrières, elles vont changer. On va modifier la façon de travailler. On va sûrement travailler un peu plus quand on est jeune et qu'on a de la force, et on va adapter, on va proposer de la formation, on va être réorienté, on va pas faire le même métier toute sa vie, et heureusement.
Jean-Luc Mélenchon, 52% à Roubaix, 66% dimanche dans ce quartier du Pile. Comment est-ce que vous analysez le succès de la France insoumise ici au premier tour ?
Je pense d'abord que c'est un vote refuge, parce que quand on regarde un peu les scores de la gauche classique et historique qui se sont effondrés, quand vous voulez pas voter à droite ou à l'extrême droite, il vous reste Jean-Luc Mélenchon. Et puis, tout à l'heure, vous évoquiez le quartier de l'Alma. Le quartier de l'Alma ne va pas bien depuis une dizaine de jours. Les nuits sont compliquées pour les habitants du quartier de l'Alma depuis 10 jours. Ça fait pas la une des journaux, mais en tout cas, c'est un fait.
Et ça brûle, pour le dire en un mot.
Oui, ça brûle. C'est difficile. Parce que on s'attaque à ce qui gangrène nos quartiers, qui sont les trafics de drogue. Donc forcément, les trafiquants ne se laissent pas faire. Et il y a des nuits un petit peu compliquées. Je voulais d'ailleurs saluer les forces de l'ordre qui sont mobilisées toutes les nuits pour la sécurité des Roubaisiens. Et donc, moi, je l'interprète comme un cri.
Et quel lien avec la France insoumise ?
Je pense que quand on vit dans un quartier où ça va pas bien, où les services publics ont reculé pendant longtemps, où on a des problèmes qui existent depuis très longtemps, et que refaire les choses, c'est un peu plus long que prévu, qu'on est dans l'urgence, on pousse un cri d'alarme. Et moi, je l'interprète comme ça. J'ai beaucoup échangé depuis dimanche. J'ai beaucoup échangé aussi pendant la campagne avec les Roubaisiens et les Ouattelosiens de ma circonscription. Il faut entendre cet appel.
Merci beaucoup, Catherine Hausson, d'être passée dans les studios de France Inter ici à la Condition publique. Dans un instant, nous sommes avec Joshua Auchard du Rassemblement National. Rappelez les chiffres de Roubaix au-delà de l'abstention dimanche. Ici, on a voté Macron à 20% et Marine Le Pen à 14,5%. Mélenchon 52,5. C'est le cas de Crimo, le vote Mélenchon. On l'a entendu dans les titres au tout début de cette émission. Il vend des fruits et légumes sur le marché de Roubaix et il dit à Béatrice Duguay ce que sera son attitude au second tour.
Ouais, je vais aller voter Macron. Parce que moi, madame, je suis né ici. Je suis né sur le sol français, mais mes parents, je suis d'origine algérienne. Puisque Le Pen, elle est vraiment contre l'immigration, contre les origines. Déjà, en France, il y a beaucoup de délits de faciès, il y a beaucoup de racisme. Disons que ça sera pire. Faut pas se voiler la face. Moi, je sais que si c'est Madame Le Pen qui passe, il y a des choses aberrantes. Qu'elle dirait que dans la rue, une femme voilée, elle se prendrait une amende comme quelqu'un qui met pas de ceinture. Ça va vraiment fort, quoi. Les personnes d'origine, si elles sont là, après, c'est toujours, il y a eu des choix. Pourquoi les gens sont venus ici? C'est peut-être parce qu'il y a eu des guerres, peut-être parce qu'il y a des coins où c'était vraiment dur. Malgré les origines, tant qu'une personne elle respecte le pays, moi je vois pas pourquoi, pour un habillement, on fait certaines manières. D'où que je voterai pas Le Pen.
Non, les gens qui ont voté Mélenchon, ils disent moi je veux pas choisir, j'y vais pas. Vous choisissez.
Parce que je pense qu'après, il y en a, ils laissent toujours faire les autres. Moi, je parle à quelqu'un de ma famille, il me dit moi j'irai pas voter parce que je m'en fous de la politique. Mais il y en a, ils le feront. Et si on pense tous comme ça, ben, c'est sûr qu'on laisse la droite passer. Moi, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, la gauche ou la droite, j'y crois plus. Mais quand même, je vais voter par principe que ça soit moins pire pour moi. Je pense pas qu'après, c'est des magiciens. Tous ces politiciens, c'est des vendeurs de rêves. Mais quand même, demain, à décider entre Macron et Le Pen, le choix est vite fait.
Bonjour, Joshua Auchard.
Bonjour.
Délégué départemental du RN, conseiller municipal à Denain. On a entendu tout à l'heure Suzy qui vote Le Pen et qui ne veut ni qui ne veut pas de Macron ni d'abstention au second tour. Là, ce monsieur, qu'est-ce que vous lui répondez? Ce monsieur qui dit « je suis né en France, mes parents sont arrivés du Maghreb, Marine Le Pen, c'est toujours le racisme ».
Et moi, j'entends tous ces électeurs qui ont fait le choix au premier tour, effectivement, de se porter sur la voie que Jean-Luc Mélenchon a portée en votant Jean-Luc Mélenchon. Ils ont finalement dit non au bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est encore plus fort, effectivement, à Roubaix. C'est fort dans le territoire des Hauts-de-France, où les seuls candidats quasiment qui sont arrivés en tête au premier tour, c'est Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon dans des secteurs comme Roubaix. Donc c'est vraiment, effectivement, moi je les entends. Et
vous n'avez pas répondu à ma question sur ce monsieur qui s'appelle Crimaud. Qu'est-ce que vous lui dites à ce monsieur?
Je lui dis qu'il peut regarder effectivement le programme de Marine Le Pen, le programme le plus social actuellement entre les deux candidats, c'est le programme de Marine Le Pen. Il n'y a pas une mesure raciste dans le programme de Marine Le Pen. Effectivement, moi j'entends les préjugés qui durent depuis des années, mais dans le programme de Marine Le Pen, c'est pas le cas actuellement.
Quelles mesures, je le disais tout à l'heure, dans les quartiers dits politiques de la ville, il y a 6 millions de personnes. Quelles mesures dans votre programme pour ces quartiers-là, Joshua Auchard?
Nous, on est sur une politique, effectivement. Emmanuel Macron et les gouvernements précédents ont tout centralisé au même endroit, à Paris, à Lille, et on a nos territoires à Roubaix, à Denain. Moi, je suis élu de la ville de Denain, qui finalement ne dispose plus de services publics, a des difficultés pour se rendre dans un service public, que ce soit la poste, que ce soit les médecins. Et on est obligé de se battre en tant qu'élu, mais je sais que c'est le cas également à Roubaix, pour trouver un service public de proximité, pour avoir une poste à proximité, pour avoir, ne serait-ce, c'est le député Sébastien Chenu qui l'a fait à Neuville, pour avoir un distributeur de billets pour que les gens puissent aller retirer de l'argent sans faire 10 minutes en voiture. Je pense que la politique que Marine Le Pen va mener, c'est tout l'inverse de la politique qu'Emmanuel Macron a menée, et rendre plus de proximité et services publics aux habitants.
Plus d'investissement dans les services publics.
Plus d'investissement dans les services publics, en tout cas plus proche des habitants.
Les débats de campagne, je voudrais revenir là-dessus. Le pouvoir d'achat, c'est le grand thème de Marine Le Pen. C'est ce qui lui a permis de faire un très bon premier tour. Quelle réponse à la critique que émet Emmanuel Macron en disant, voilà, la principale mesure, la baisse de TVA à 0% sur une série de produits de première nécessité, par exemple sur des couches où la TVA est déjà basse, c'est quelques centimes, c'est une arnaque. Quelle réponse?
Déjà, la mesure sur le pouvoir d'achat, le thème du pouvoir d'achat, c'est pas le thème central de Marine Le Pen, c'est le thème principal des Français. Effectivement, Marine Le Pen s'en est emparée le plus tôt dans cette campagne, voyant effectivement la baisse du pouvoir d'achat augmenté considérablement sous le bilan d'Emmanuel
Macron. Même si c'est pas ce que disent les instituts. Alors il y a le ressenti et puis il y a les chiffres. C'est pas ce que disent les instituts type OFCE, les spécialistes économiques, qui disent que le pouvoir d'achat a plutôt un peu augmenté, mais le ressenti n'est pas là.
Le ressenti n'est pas là, et en tout cas quand on est élu, et je rejoins Mme Ausson, d'une ville comme Roubaix, d'une ville comme Denain, le ressenti, c'est ce qu'il leur reste dans leur poche à la fin du mois, et effectivement à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, à la fin de ces deux quinquennats qui finalement ont opposé la droite et Emmanuel Macron, ils ont moins dans leur poche.
Mais entre le quoi qu'il en coûte et les mesures carburant, gaz, électricité, il y a des milliards qui ont été dépensés. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour le pouvoir d'achat?
Nous, déjà, ce que les deux mesures, en tout cas deux des mesures de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat, c'est effectivement la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie, sur les carburants, puisque à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, la difficulté, c'est de pouvoir faire le plein de son véhicule. Effectivement, c'est la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Mécaniquement, ça contribue à faire baisser le prix de ces produits. Alors effectivement, ça coûte de l'argent. Ça a été très bien chiffré dans le projet de Marine Le Pen. Des économistes seront à faire effectivement ailleurs.
Où allez-vous chercher les voix qui manquent? Là, les sondages, alors, avec toute la prudence requise, on est à 53, 47, 54, 46. Maxence Lambrecq, dans le journal de 13h, nous disait le report de voix est plus compliqué pour Marine Le Pen. Où est-ce que vous allez chercher les voix qui manquent d'ici au 24 avril?
Mais nous, on va aller chercher les voix sur tous ces électeurs et ces abstentionnistes qui portent une vision différente que celle d'Emmanuel Macron a portée pendant 5 ans. La question qu'on leur pose, et la question qui leur est posée au second tour, finalement, c'est stop ou encore. Stop à la politique antisociale sociales d'Emmanuel Macron ou encore la baisse des APL. Nous, on pense que Marine Le Pen rejoint Jean-Luc Mélenchon sur quelques points au niveau de la démocratie. Par exemple, c'est Marine Le Pen qui propose le référendum d'initiative citoyenne là où Emmanuel Macron se met à écouter le peuple depuis deux jours et recule sur la retraite. C'est Marine Le Pen qui porte ces mesures-là aujourd'hui.
Je vous arrête là pour qu'on ait un temps de parole équivalent et même quasiment égal entre vous deux. Merci Joshua Hochard de nous avoir rejoint, vous aussi, à la condition publique. Je vais maintenant me déplacer de quelques mètres pour aller m'installer dans une autre exposition de la condition publique et rejoindre le directeur de ce lieu, Jean-Christophe Levasseur. 13h54 sur France Inter.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour Jean-Christophe Levasseur.
Bonjour.
Directeur de la condition publique, on se dirige vers une exposition qui s'appelle Urbaine. C'est quoi cette exposition? Qu'est-ce qu'elle raconte?
En fait, on a voulu, avec toute la programmation de la condition publique et notamment cette grande exposition d'art urbain, de street art, s'interroger sur la place et la représentation de la femme ou des questions de genre dans la ville, dans la fabrique de la ville. Alors ça passe par cette grande exposition de street art parce que ce sont les artistes qui interviennent directement dans l'espace public, avec une introduction, puisque c'était un mouvement qui historiquement était plutôt un mouvement masculin avec des représentations peut-être stéréotypées, mais qui a fortement évolué quand le mouvement s'est mis à être plus militant, plus politique, avec des engagements divers. J'en veux, par exemple, pour preuve, la performance de Zeus qui avait kidnappé une femme Lhasa géante.
Ah oui, tiens, on va s'approcher. Donc, allez-y, racontez-nous ce que c'est.
Et donc, en fait, Zeus, c'est un artiste qui, dans les années 90, a décidé de kidnapper une femme Lhasa de 12 mètres de haut, qui, pour vendre du café, était totalement dénudée avec des étiquettes Lhasa.
Il a découpé une affiche, en fait.
Oui, voilà. Et il en a demandé une rançon de 500 000 dollars, et ensuite il a créé tout un jeu de chat et la souris autour de cette personne kidnappée, qui est dans la condition publique. Donc d'ailleurs, si la police recherche la personne kidnappée depuis plus de 25 ans, elle est ici à la condition publique.
Elle est devant nous avec effectivement la féminité plus qu'exacerbée et le fait d'être complètement nue ou quasiment juste pour vendre du café. On est passé là en se promenant dans cette exposition, Jean-Christophe, devant un groupe d'enfants. Moi, la question que je me pose, il y a ici à la fois du théâtre, il y a des ateliers, il y a de l'art contemporain. Qui vient à la condition publique?
En fait, à la condition publique, on essaye d'avoir des activités pour tous les types de publics. C'est vrai qu'on est un lieu avec des grandes expositions comme celle-ci, urbaine, comme l'exposition aussi qu'on a pu faire avec le FRAC dans laquelle vous étiez tout à l'heure, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Mais on est ici dans un espace où les gens du quartier, ils peuvent venir bricoler le mercredi et le samedi après-midi. Les enfants du quartier viennent faire des ateliers numériques au Fab Lab et peuvent y assister les mercredis et les samedis après-midi aussi en libre. Il y a des concerts gratuits le vendredi soir. Et en fait, chacun va trouver une raison de pousser la porte de cette grande maison commune au final où après, on coexiste, on cohabite et puis on fait société tous ensemble.
On l'a compris, on n'est pas dans un quartier facile. L'idée, c'est vraiment que des populations d'origine très différentes, les gamins, les accros à l'art contemporain qui peuvent venir de Lille ou d'ailleurs, des gens du quartier qui ont besoin d'un coup de réparation, que tous ces gens-là se croient, que ce soit un point de rencontre.
On est vraiment dans l'envie d'appartenance, de faire en sorte que les gens se disent, ici, c'est chez moi et je suis aussi légitime que n'importe qui d'autre. On travaille beaucoup sur ce sujet, en effet.
On a parlé politique depuis le début de cette émission. Alors là, je voudrais pas qu'on parle vote, mais au fond, la politique, c'est aussi des élus, des collectivités locales qui choisissent d'investir ou pas. Et c'est important de souligner qu'un lieu comme ça ne peut exister qu'avec le soutien des pouvoirs publics et des subventions publiques.
Oui, tout à fait. La plupart de nos activités sont gratuites ou quasiment gratuites. On s'appuie évidemment sur le soutien de la métropole européenne de Lille, de la région Hauts-de-France, de la ville de Roubaix, du département. L'État, sur divers contrats de ville, peut aussi venir nous aider. C'est très important. On a aussi le soutien des mécènes. Il y a un certain nombre d'entreprises qui nous accompagnent, comme EY, Webhelp, Sergic, sur ce projet, par exemple. Mais c'est parce que aussi on a tous ces acteurs qui viennent soutenir le projet que on peut le partager avec tout le monde. Et on a aussi toutes les structures de spectacles vivants qui programment chez nous. On est une plateforme de programmation. Et ça, c'est important de rappeler qu'il y a la Rose des Vents, le gymnase, la cave aux poètes. Ils utilisent notre lieu pour programmer. Et à chaque fois, c'est des publics nouveaux qui vont en croiser d'autres et qui vont s'additionner et ainsi de suite.
Dans cette région du Nord, on va au-delà de Roubaix. Alors, il y a la piscine à Roubaix. Il y a beaucoup de choses à Lille. La culture joue un rôle clé pour revivifier, rassembler les gens.
Alors moi, je suis convaincu que la culture, c'est un rôle clé pour inventer le monde de demain. On va pas changer les choses de manière incrémentale. On a besoin de désaxer complètement nos regards. Et on est ici avec des enjeux énormes de renouvellement urbain dans un contexte très compliqué, mais en même temps, on est face à un patrimoine de très grande qualité. On mène énormément d'actions hors les murs, d'œuvres d'artistes dans l'espace public, qui impliquent aussi les habitants dans la production. Et ça permet de redécouvrir des façons de voir l'espace public, d'imaginer quelque chose de possible. On avait fait comme ça une action sur le bord du canal et ça a démarré quelque chose et aujourd'hui on est très heureux que la ville ait dit il faut faire de ce canal un parc urbain naturel et ça vient peut-être un peu de nos actions à ce moment-là.
Reconquérir le canal qui est juste à côté. Merci beaucoup Jean-Christophe et venez vous qui nous écoutez à la condition publique, ce lieu est absolument dingue, ancien lieu d'entrepôt de textiles et de conditionnement et ces immenses hangars, c'est vraiment un lieu intéressant. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno, la Terre au Carré c'est un lieu intéressant, si venez nous rejoindre dans un instant.
Oui, je confirme. Quel est le programme, dites-moi.
On va parler de l'intelligence des abeilles.
À tout de suite Mathieu.